Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 3 août 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Le président ivoirien Alassane Ouattara a nommé un nouveau gouvernement sans grand changement après le choix d'Ahmed Bakayoko comme premier ministre. Au Sénégal, Cheikh Ahmed Tidiane Niass de la Faïda Tidjania est décédé dimanche à l'âge de 87 ans. En Afghanistan, au moins 29 morts dans une attaque du groupe État islamique contre une prison à Jalalabad qui a duré de nombreuses heures. La pandémie de Covid-19 a fait 690 000 morts dans le monde et plus de 18 millions de cas d'infection. Le président américain Donald Trump s'est réjoui du retour de la capsule habitée de SpaceX 2 mois après son départ pour la Station spatiale internationale. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et des sports. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a nommé un nouveau gouvernement sans grand changement à 3 mois de la présidentielle et quelques jours après la nomination d'Ahmed Bakayoko comme premier ministre. Nani Talani.
L'essentiel des ministres de la précédente équipe conservent leur portefeuille. Le premier ministre Ahmed Bakayoko conserve le ministère de la Défense qu'il occupe depuis 2017. Il a été désigné le 30 juillet chef du gouvernement pour remplacer Gon Coulibaly, dont le décès a bouleversé la donne politique à 3 mois de la présidentielle. Alassane Ouattara, qui avait renoncé à briguer un troisième mandat, est désormais pressé par son parti de se présenter, mais a différé sa décision. Dimanche, l'ex-ministre Albert Mabry-Touakeuse, 58 ans, ancien allié du président Ouattara, s'est déclaré candidat. Pascal Afinguesson, 67 ans, qui dirige une aile du FPI, s'est lui aussi déclaré candidat. L'ex-président Henri Konan Bédié, 86 ans, a été désigné candidat du PDCI, ancien allié du président Ouattara, devenu le principal mouvement d'opposition.
Au Mali, les 11 occupants d'un avion de l'ONU ont été blessés, dont un grièvement lors d'un atterrissage difficile à l'aéroport de Gao. L'appareil en provenance de Bamako avait à son bord 4 ONUsiens et 7 membres d'équipage, a précisé la MINUSMA. Une grande partie du fuselage s'est enfoncée dans un terrain gorgé d'eau par les pluies récentes. En République démocratique du Congo, un homme a été tué et des édifices saccagés lors d'une manifestation des partisans du président Félix Tshisekedi à Kasumbalesa, dans la province du Haut-Katanga. Les membres de l'UDPS manifestaient contre la mort d'un des leurs, tué la nuit dernière. Ils ont saccagé 2 commissariats de police et un tribunal. Un passant atteint d'une balle a succombé à ses blessures à l'hôpital, selon André Kamwania, maire de cette ville frontalière avec la Zambie. En Somalie, au moins 2 personnes ont été tuées et 1 blessée dans un attentat suicide devant un restaurant de Mogadiscio. L'explosion a eu lieu à l'entrée du restaurant où un garde de sécurité a arrêté le kamikaze, a indiqué la police. 2 personnes, dont le garde, ont péri dans l'explosion. Proche du port de la ville, le restaurant Loul Yemeni est populaire parmi les responsables du gouvernement qui sont régulièrement la cible d'attentats menés par les Chebabs. Les autorités marocaines ont annoncé avoir repêché les corps de 7 migrants, dont 5 femmes, au large de Tarfaya. Par ailleurs, une tentative de migration clandestine à partir de la bande côtière de Tarfaya a été mise en échec et 40 migrants originaires de pays d'Afrique subsaharienne ont été interpellés. Le parquet algérien a réclamé 4 ans de prison ferme contre le journaliste Khaled Drareni et ses 2 co-accusés. Le procureur du tribunal de Sidi Mahmed à Alger a requis aussi une lourde amende et la privation des droits civiques des accusés. Consternant et choquant, a protesté Reporters sans frontières dans un tweet. Khaled Drareni est accusé d'incitation à un attroupement non armé et d'atteinte à l'intégrité du territoire national après avoir couvert une manifestation du Irak.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Afghanistan, au moins 29 personnes, dont 10 assaillants, ont péri dans une attaque du groupe État islamique contre une prison à Jalalabad qui a débuté dimanche et s'est achevée lundi. Yacouba Ouedraogo.
Débutée hier, l'attaque contre la prison de Jalalabad a pris fin ce lundi. L'entrée de la prison porte les traces de l'explosion d'un véhicule piégé qui a lancé l'assaut. Plusieurs cellules, avec parfois des prisonniers à l'intérieur, ont été incendiées ou endommagées. Dans un communiqué, le groupe État islamique, qui n'était pas partie prenante de la trêve de Tabaski entre les forces afghanes et les talibans, a revendiqué l'attaque. La prison abrite 1700 personnes, majoritairement des combattants de ce groupe djihadiste et des talibans. D'après les autorités, environ 700 prisonniers ont pu s'échapper avant d'être repris. Ce raid survient au lendemain de l'annonce par Kaboul de la mort de Assadullah Oradzai, un haut responsable du groupe État islamique, lors d'une opération sécuritaire près de Jalalabad. Dimanche, avant cette attaque, le gouvernement a offert de prolonger la trêve avec les talibans, mais ces derniers n'ont pas encore répondu. Les autorités ont libéré depuis vendredi 300 détenus talibans supplémentaires, portant leur total à plus de 4 900.
La course au vaccin continue, mais l'OMS avertit qu'il n'existe pas pour l'heure de solution miracle contre le coronavirus. Éric Manirakiza.
Il n'y a pas de panacée et il n'y en aura peut-être jamais, a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS. Les essais cliniques nous donnent de l'espoir. Cela ne veut pas nécessairement dire que nous aurons un vaccin efficace, notamment sur la durée, a-t-il expliqué. Plusieurs pays sont lancés dans la course pour un vaccin. Certains en sont aux dernières étapes des essais cliniques. La Russie a assuré aujourd'hui qu'elle serait prochainement en mesure de produire plusieurs millions de doses début 2021. En revanche, la pandémie s'accélère, particulièrement aux États-Unis et en Amérique latine. Plus de 18 millions de personnes dans le monde ont été contaminées, dont 680 000 morts. Le coronavirus pousse certaines villes comme Melbourne, en Australie, à refermer les portes des commerces. En France, le Premier ministre a appelé à ne pas baisser la garde pour éviter un reconfinement généralisé. En Allemagne, des milliers d'élèves ont repris le chemin de l'école, les premiers en Europe, une rentrée marquée par de strictes mesures sanitaires. Au Kenya, la tragédie touche aussi les adolescentes, qui sont plus nombreuses à tomber enceintes.
Le président américain Donald Trump s'est réjoui du retour sur Terre dimanche de la capsule habitée de SpaceX, 2 mois après son départ pour la Station spatiale internationale. Le point avec Abdourahmane Dia.
C'est super de voir nos astronautes de la NASA rentrer sur Terre après 2 mois d'une mission très réussie. Merci à tous, a tweeté le président américain après l'amérissage de la navette spatiale dans le golfe du Mexique. Ce retour sur Terre couronne le succès de la première mission de démonstration de la société spatiale SpaceX pour la NASA. Bienvenue sur Terre et merci d'avoir volé sur SpaceX, a annoncé le directeur de vol aux astronautes qui ont répondu immédiatement. La capsule Dragon a amerri au large de Pensacola en Floride comme prévu à 18h48 GMT, selon les images retransmises en direct après avoir traversé l'atmosphère terrestre. 4 grands parachutes ont ralenti la descente de la capsule qui a ensuite été récupérée rapidement par un navire. Bob Behnken et Doug Hurley sont devenus les premiers astronautes à être acheminés vers la Station spatiale internationale à 400 km de la Terre par une société privée sous contrat avec la NASA. C'est aussi le premier vol habité parti des États-Unis depuis 2011, quand les navettes spatiales ont été arrêtées. Les Américains allaient dans l'espace à bord de fusées russes.
Donald Trump a déclaré que le réseau social TikTok, propriété du chinois ByteDance, devrait être vendu mi-septembre pour pouvoir continuer à opérer aux États-Unis. Il fermera le 15 septembre, à moins que Microsoft ou une autre entreprise soit en mesure de l'acheter et de trouver un accord, a déclaré le président américain. Dans un contexte de tension avec la Chine, Washington accuse l'interface de pouvoir être utilisée par le renseignement chinois à des fins de surveillance. Les États-Unis déploieront par rotation jusqu'à 5500 soldats en Pologne grâce à un accord conclu avec Varsovie, a indiqué le Pentagone, confirmant une annonce du ministre polonais de la Défense. Ces troupes s'ajouteront aux 4500 militaires américains déjà déployés en Pologne, a indiqué le secrétaire à la Défense Mark Esper. Le groupe Facebook a banni de ses plateformes le polémiste français Dieudonné Mbalambala pour ses propos antisémites. Il était suivi par plus d'un million de comptes. Gogol avait fermé son compte YouTube en juin pour les mêmes raisons. Dieudonné a été plusieurs fois condamné par la justice pour ses propos haineux. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée par John Linden.
Les échanges ont repris ce lundi à la bourse du Zimbabwe après un mois de suspension. Le 29 juin, le gouvernement du Zimbabwe avait ordonné la fermeture immédiate et sinédiée de la Zimbabwe Stock Exchange et restreint les paiements par téléphonie mobile. Les autorités avaient affirmé que le système de transfert d'argent par téléphone mobile servait avec l'aide du Zimbabwe Stock Exchange à des activités illicites qui sabotent l'économie. Au Cameroun, le gouvernement annonce que 80 000 ménages dans 4 des 10 régions vont bénéficier du projet Filets sociaux en 2020. Lancé en 2012, ce programme vise à lutter contre la pauvreté chronique. Il est financé par l'État et les bailleurs de fonds, dont la Banque mondiale. Avec 13,43 milliards de francs CFA, ce projet a financé en 2019 40 000 ménages dans 1200 villages, 64 quartiers et 35 communes du Cameroun. Ici, aux États-Unis, Microsoft a confirmé dimanche que des négociations étaient en cours pour racheter la branche américaine de TikTok à sa maison mère chinoise, ByteDance, et qu'elle continuerait après une discussion avec Donald Trump, qui voulait bannir le réseau social des États-Unis. C'est pour parler, selon un communiqué de Microsoft, devrait aboutir au plus tard le 15 septembre.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Revirement à la CAF, alors que la Ligue des champions devait s'achever par un Final Four, les demi-finales se joueront finalement au traditionnel format aller-retour. La première demi-finale aller opposera les Égyptiens d'Al Ahly aux Marocains du Wydad Casablanca au Caire le 25 septembre. La seconde mettra aux prises, toujours en Égypte, le Zamalek et le Raja Casablanca le 26 septembre. Les matchs retour se joueront au Maroc les 2 et 3 octobre, selon le communiqué de la CAF. La finale se déroulera sur un terrain neutre en cas d'opposition entre une équipe égyptienne et une équipe marocaine, ajoute la CAF. Si elle oppose deux clubs d'un même pays, en revanche, elle se jouera le 15 ou le 16 octobre, soit au Maroc, soit en Égypte. La CAF a par contre confirmé l'organisation d'un Final Four pour la Coupe de la Confédération au Maroc fin septembre à huis clos cette fois-ci. En Égypte, la FIFA a prolongé de 4 mois supplémentaires le mandat du comité de normalisation de la Fédération de football. Ce mandat devait initialement prendre fin le 30 août prochain, dirigé par Amr El Ghanaini. La normalisation est en place depuis août 2019 après la démission du président Hani Abo Rida, parti au lendemain de l'élimination des pharaons de la CAN 2019. En Europe, le Congolais Chancel Mbemba, vainqueur du championnat du Portugal avec le FC Porto, a offert la Coupe du Portugal à son club. À lui tout seul, le milieu de terrain a inscrit un doublé 47e et 57e pour assurer la victoire 2-1 à son équipe devant Benfica. Nous devions honorer notre maillot, notre responsabilité était sur nos épaules et nous avons réussi à l'emporter, a déclaré le Congolais de 25 ans qui a rejoint le FC Porto il y a 2 saisons en provenance de Newcastle en Angleterre. Ici, en MLS, Portland qui a battu New York City 3-1 et Minnesota United, vainqueur des San Jose Earthquakes 4-1, se sont qualifiés pour les demi-finales du tournoi organisé par la Ligue nord-américaine à Disney World. Portland, lauréat de la Coupe MLS en 2015, sera opposé à Philadelphia Union ce mercredi pour une place en finale. De son côté, Minnesota devra battre Orlando City FC jeudi pour atteindre la finale. En basketball, Houston, plus shooter que jamais, a fait tomber Milwaukee 120 à 116 hier en NBA malgré les 36 points, 18 rebonds et 8 passes décisives du MVP Gianni Antetokounmpo des Milwaukee Bucks. Phoenix a disposé de Dallas 117 à 115. Orlando a pris le dessus sur Sacramento 132 à 116. Memphis est tombé devant San Antonio 106 à 108. Boston a battu Portland 128 à 124. Et Brooklyn a eu raison de Washington 118 à 110.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. De plus en plus de Camerounais s'interrogent et même critiquent le gouvernement et l'armée sur la gestion de la guerre contre Boko Haram dans le nord du pays. Dimanche, 19 personnes ont été tuées et 16 autres blessées lors d'une attaque dans un camp de personnes déplacées. L'armée rejette les critiques mais admet que le groupe djihadiste a augmenté ses attaques. Un reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé. Le récit est de Lionel Gaïma.
Ousmanou Sani, chef du village de Ngechewe, près de la ville de Mozogo dans l'extrême nord du Cameroun, compte sur les milices d'autodéfense pour protéger ses administrés de Boko Haram. Selon lui, la présence militaire a été considérablement réduite, si bien que la frontière poreuse avec le Nigeria n'est plus contrôlée.
Je salue le déploiement de ces soldats de notre genre. Ils font un travail remarquable au quotidien. Je crois qu'ils peuvent faire mieux s'ils étaient aussi équipés comme il le faut. Il faut que le gouvernement équipe ses membres du comité de vigilance pour éradiquer donc le Boko Haram dans la région de l'extrême nord.
Selon lui, l'armée est absente de la majorité des 6 postes de contrôle, ce qui pourrait avoir encouragé les incursions de Boko Haram. L'armée a reconnu que plusieurs combattants de Boko Haram, dont des femmes, sont partis du Nigeria pour attaquer un camp de déplacés internes de Gechewe. Les autorités militaires ont fait état de plusieurs personnes tuées ou blessées sans donner des chiffres. Cette nouvelle attaque a eu lieu moins d'un mois après la visite du général René-Claude Meka, chef d'état-major de l'armée, pour galvaniser les troupes. Il rejette les allégations selon lesquelles l'armée s'est retirée de nombre de positions à la frontière avec le Nigeria.
Il travaille bien, avec efficacité et professionnalisme. Il n'y a pas de développement particulier sur le terrain. On a beaucoup échangé et il faut recaler les hommes dans la manière de conduire les opérations. S'il y a des problèmes particuliers qui se posent, il faut réorienter s'il le faut.
Jean-Vincent Touda-Ebodé de l'université de Yaoundé 1 estime que l'armée ne devrait pas penser qu'elle a vaincu Boko Haram, ajoutant que le groupe terroriste est certes affaibli, mais toujours très présent dans le nord du Cameroun, au Nigeria et au Tchad.
Pour endiguer ce terrorisme, il faut tenir compte de ce qui pourrait être instrumentalisé par le terroriste pour poser ses actes. Maintenant, la sécurisation de l'ensemble de la population, des infrastructures qui peuvent être les cibles des terroristes demandent des mesures appropriées de sécurité, de sûreté, aussi de défense.
Depuis janvier, le Cameroun a enregistré 87 attaques à sa frontière nord avec le Nigeria, dont 22 dans le district de Mozogo. Les Nations Unies rapportent que la violence de Boko Haram a fait au moins 30 000 morts et environ 2 millions de déplacés.
Abdourahman Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, le COVID-19 et l'adaptation au numérique. Alors que beaucoup de secteurs souffrent énormément des restrictions imposées un peu partout pour essayer de contenir la propagation du nouveau coronavirus, les plateformes digitales enregistrent un grand boom. Du commerce électronique au télétravail, le numérique est en train de prendre une place de plus en plus importante dans le quotidien des populations. Quelles sont les opportunités et les défis d'un monde de plus en plus digitalisé? Rendez-vous jeudi 6 août à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
En Centrafrique, la société civile réclame la démission du Premier ministre Firmin Grébada et appelle à une journée ville morte mercredi à Bangui. Elle entend ainsi protester contre la rencontre du gouvernement avec le chef de l'UPC, Ali Darassa, la semaine dernière. Au cours de cette rencontre, le gouvernement a accepté de réinstaller Ali Darassa à Bambari, chef-lieu de la préfecture de la Waka. Freeman Sipila a joint Gervais Lakousso, coordonnateur du groupe de travail de la société civile.
Au cours de cette rencontre tenue en toute discrétion le 25 juillet à Bangui, le gouvernement et Ali Darassa se sont mis d'accord sur un certain nombre de points. Selon le communiqué final, le chef de guerre nigérien, aujourd'hui à la tête de l'UPC, un groupe armé qui contrôle une partie du centre et de l'est de la République centrafricaine, accepte de faciliter le déroulement du processus électoral, de travailler pour le désarmement de ses hommes et de ne plus poser des actes qui relèvent de la compétence régalienne de l'État. En contrepartie, le gouvernement accepte de réinstaller Ali Darassa à Bombari, ville qu'il a quittée sous pression de la MINUSCA en 2018. Cet accord passe mal aux yeux de la société civile qui exige la démission du Premier ministre et le départ de certains garants de l'accord de paix du 6 février 2019 entre le gouvernement et les groupes armés. Gervais Lakosso, coordonnateur du groupe de travail de la société civile GTSC.
Le Premier ministre est en train de poser un acte de haute trahison et les garants de ce soi-disant accord de Khartoum sont en train de se moquer du peuple centrafricain. Le mercredi 5 août, nous invitons tous les centrafricains à rester chez eux à la maison. Pas de travail ce jour-là. C'est une journée ville morte. Et qu'est-ce que nous revendiquons? Nous revendiquons la démission sans condition du Premier ministre.
Cet appel du GTSC suscite de nombreuses réactions dans le pays. Le mouvement Centrafrique Debout, une organisation de la société civile proche du pouvoir, monte au créneau et contredit le mot d'ordre du GTSC. Abakar Piko, un des leaders.
Dans le processus de l'accord de Khartoum, il est institué un cadre de concertation permanent entre le gouvernement et les signataires. C'est dans ce contexte que Ali Darassa a été reçu par le gouvernement. Et ce n'est que chose normale. Le Premier ministre Grébada n'a commis aucune erreur. C'est pour ça que nous disons au peuple centrafricain de ne pas respecter cette prétendue grève.
Sébastien Wenezui, coordonnateur du parti politique Cohésion Centrafricaine pour la Reconstruction et conseiller spécial du chef de l'État, dénonce lui aussi un appel infondé.
Leur déclaration est très précoce pour une simple raison, parce qu'elle ne sait pas exactement les faits réels qui se sont déroulés par rapport à la venue de Ali Darassa à Bangui. La réalité est qu'elle devait se rapprocher de la primature pour savoir ce qui s'est passé au lieu de se contenter d'aller vouloir faire venir les enfants des autres dans la rue ou bien de projeter ce qu'on appelle une ville morte.
Même si des voix proches du pouvoir s'élèvent pour rejeter les revendications du GTSC, la classe politique centrafricaine est aussi partagée sur le sujet. Pour l'ancien Premier ministre Martin Zigele, président du mouvement de libération du peuple centrafricain, Ali Darassa est un criminel qu'il faut traiter comme tel.
Pour le mouvement de libération du peuple centrafricain, la résolution de la crise centrafricaine passe nécessairement et obligatoirement par l'arrestation sans condition et sans délai de Ali Darassa.
Alors que la polémique enfle autour de cette rencontre entre le gouvernement et Ali Darassa, le chef de l'UPC dénonce dans un communiqué de son mouvement les compromis présentés par Bangui. Il affirme avoir été obligé par le Premier ministre Firmin Grébada de signer le communiqué final de la rencontre. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Le gouvernement gabonais a lancé le programme Gabon Famille Verte. Le concept est adapté à cette période de confinement liée à la crise sanitaire du coronavirus. Il promeut le retour à la terre à partir de petites expériences de potager à domicile. Le ministère de l'Agriculture et son partenaire technique, la FAO, ont inauguré les premières récoltes de ce programme agricole. Un reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangenze.
Devant sa maison, Diaran Ziengui a relevé en 6 mois le défi de planter choux, carottes, persils et tomates sur 7 mètres carrés d'espace. Il fait partie des 5000 premiers bénéficiaires des lots de semences offerts par le gouvernement aux personnes désireuses de cultiver la terre à domicile.
Je n'ai même pas un espace de terre arable, alors je le fais sur pot. Avec le matériel que j'utilise, c'est quoi? C'est le copeau, avec un peu de copeau, la fiente, pour bien amender ce copeau-là. Et puis c'est tout, et de l'eau.
À l'heure des premières récoltes du concept Gabon Famille Verte, nous assistons à une dégustation improvisée des produits de potager visités par les équipes du bureau de la FAO à Libreville et une délégation du ministère gabonais de l'Agriculture.
C'est la première fois que je vais déguster des produits de Gabon Famille Verte. Jusqu'à présent, ils mangeaient seuls. Aujourd'hui, ils vont manger avec nous.
Pour le représentant régional de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, ce programme mérite d'être partagé en Afrique comme modèle de renforcement du système alimentaire sur le continent. LDR Moutéa, coordonnateur FAO au Gabon.
L'idée, c'est que dans le contexte du Covid, on puisse chercher des solutions qui sont durables, notamment dans la production et de la consommation des aliments. Les producteurs qu'on a visités aujourd'hui, ils sont trois, ils sont appropriés de la vision. Je pense qu'on va, dans la même plateforme, créer des conditions pour partager ces bonnes expériences et qu'on puisse vraiment faire du Gabon Famille Verte, une initiative non seulement du Gabon, mais aussi de l'Afrique. Je pense que c'est une initiative que l'Afrique mérite de connaître.
Cette campagne de promotion pour le retour à la terre a déjà enregistré 1000 familles inscrites en ligne. On écoute le ministre gabonais de l'Agriculture, Biendi Manganga Moussaou.
Et on s'inscrit sur la plateforme Gabon Famille Verte, il y a un lien. On s'inscrit, on peut recevoir des semences pour planter à domicile, pour faire en sorte de développer sa production personnelle, une autosuffisance familiale. Et le programme va se poursuivre avec les jardins familiaux qui vont permettre à ceux qui n'ont pas de terrain de disposer d'endroits dans la ville pour pouvoir planter.
Le programme Gabon Famille Verte ambitionne de rendre l'agriculture accessible à tous en milieu urbain, de même qu'à promouvoir l'autonomisation des familles. Libreville, Ismaël Obionzé pour VOA.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur voaafrique.com. Très bonne soirée à toutes et à tous.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Aller vers l'autonomie est l'un des principaux objectifs de l'USAID dans l'aide au développement. L'idée est d'orienter le travail du gouvernement américain vers un moment où l'aide étrangère ne sera plus nécessaire. C'est ce qui sert de base à l'USAID sur la manière d'atteindre notre objectif ultime, qui est de mettre fin aux besoins d'aide étrangère, a déclaré Chris Maloney, administrateur adjoint par intérim de l'USAID pour l'Afrique. Si nous voulons mettre fin aux besoins d'aide étrangère dans un pays donné, cela signifie que ce pays doit devenir autonome. L'USAID envisage l'autosuffisance de deux manières. Le premier est d'examiner l'engagement que nous constatons dans un pays, a déclaré l'administrateur adjoint par intérim Maloney. Ce que j'entends par engagement, ce sont des choses comme des choix politiques, les mécanismes de gouvernance, les normes culturelles, les choses qui aident ou entravent un pays tout au long de son parcours en termes de choix pour son développement. Deuxièmement, l'USAID examine sa capacité. Donc, des choses comme les niveaux d'éducation, les niveaux de santé, la capacité du gouvernement à fournir des services, la force de la société civile, la structure économique, des choses que vous ne pouvez pas changer d'un simple coup de stylo. L'USAID estime qu'en aidant un pays à accroître son engagement et à renforcer ses capacités, on le mettra sur la voie de l'autosuffisance et de la capacité de gérer ses propres défis de développement. Donc, cette idée de voyage d'autonomie, j'aime à le dire en fin de compte, c'est une façon élégante de parler du spectre du développement en s'assurant que nous ayons une approche très centrée sur un pays et en particulier dans le cas de l'Afrique en examinant sérieusement la capacité d'engagement dans un pays donné et en déterminant comment nous pouvons soutenir les deux du mieux que nous pouvons. Si vous souhaitez savoir comment un pays progresse sur le chemin de l'autosuffisance et comment il se compare à ses voisins ou à tout autre pays en développement d'ailleurs, jetez un coup d'œil sur les Country Roadmaps de l'USAID. Ces visualisations simples utilisent des données tierces pour évaluer l'engagement et la capacité dans un pays donné et donnent une idée des forces et des faiblesses d'un pays en matière d'autonomie à travers 17 paramètres. Ils sont disponibles sur https://selfreliance.usaid.gov. Pour tous les pays classés comme à revenus faibles ou intermédiaires.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.